ce soir sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous allons parler du Salon du Livre Imaginaire Grès Imaginaire du 28 au 29 mars à la Marelle de Crôle. C'est un salon du livre qui a lieu tous les deux ans depuis 2016 et on a avec nous un des bénévoles de l'événement, Olivier Maillard. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter votre rôle en tant que bénévole ?
Ok. Bon, moi je suis un habitant du Grésivaudan, la soixantaine d'années maintenant, hein, arrivé dans la région grenobloise il y a une vingtaine d'années, et intéressé par tout ce qui est un peu associatif, hein, engagement associatif. Et donc il y a quelques années, un peu avant 2015, on a eu l'occasion, en échangeant avec une amie, très intéressé par les littératures fantastiques et participant à pas mal de salons, de constater qu'en fait, en région grenobloise, à l'époque, il n'y avait pas d'événement pour mettre en valeur là, cette littérature, la littérature de l'imaginaire. Donc, elle a proposé à un certain nombre, on va dire, de bénévoles en mode d'un peu qui même me suivent, si on se lançait dans l'aventure. Et bah, c'est vrai que j'ai fait partie du petit groupe à l'époque qui avait lancé cette activité. Donc les responsabilités dans le groupe sont assez variées. Moi, j'avais pris typiquement à un moment donné une refonte du site web, par exemple. Après, dans les installations de salon, on a souvent besoin de beaucoup de bras pour tenir des postes, donc j'y contribue aussi. Et puis après, on a aussi un autre sujet qu'on a été amené à traiter avec le salon, c'est que nous avons eu progressivement de la notoriété. Donc le côté très positif, c'est que ça veut dire beaucoup d'auteurs sont intéressés pour y participer. Mais on est obligé de mettre en place quelque part un comité de lecture pour s'assurer, on va dire, que les auteurs indépendants qui veulent se présenter, on essaie de leur garantir un certain nombre de places, de faire une sélection alors qu'ils soient assez équilibrés, qu'ils maintiennent une répartition entre les différents styles de littérature de l'imaginaire, un peu les différents types de publics aussi, puisqu'on essaie d'avoir des très jeunes jusqu'à tous les âges. Et donc, je fais aussi partie de cette instance-là. Puis on a des fois des ateliers bricolage auxquels ça m'arrive de contribuer. Bon.
Très varié.
Voilà.
Vous faites un peu de tout sur le...
Oui, voilà, c'est ça.
Mais du coup, vous êtes là aussi depuis le tout début.
Voilà, tout à fait.
Et vous avez beaucoup évolué depuis le tout début, du coup ?
Alors oui, parce que... Il y a quelque chose, on va dire, qui est resté constant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était impulsé par la présidente du salon, notamment. Il y a un peu un noyau vraiment d'experts en salon, dans l'équipe, qui, eux, avaient une bonne vision des salons autour de l'imaginaire, qui avaient vraiment une attente centrale, c'est de se dire, faire que les auteurs y soient bien. C'était la priorité. Donc voilà, donc ça c'était le cœur. Moi, connaissant pas trop les salons et leur univers, là-dessus, je me suis pas mal fié effectivement à leur jugement. Par contre, quand on a commencé à Villarbonneau, donc on a eu le plaisir de travailler à l'Espace Aragon avec une très belle salle de l'Espace Aragon. Mais rapidement, à leur premier jour, on se demandait si on allait avoir du monde. Hein, première fois où on démarre un salon, c'est quelque chose d'assez surprenant.
Les stress du début.
Voilà, le tout début, le stress, la première, première occurrence du salon. Et puis, en 2015, on a eu à peu près 800 visiteurs sur le week-end.
Pour le premier salon ?
Oui, oui. Donc, ça répondait quand même bien à une attente.
Ah, c'est pas mal quand même, 800 mal, ouais. Pour un tout premier événement.
Ah oui, oui, oui. C'était vraiment un début tout à fait inespéré. À la limite, on en aurait eu 150 ou 200. Je pense qu'on aurait peut-être été contents. Et ben, c'est suite à ça donc qu'on a voulu garder quelque chose d'assez constant, qui était la dimension auteur et les auteurs au centre. Une dimension aussi animation autour, avec les jeux, tout ce qui est jeux de société. On a un partenariat avec le CJSD, par exemple. Il y a une troupe qui est officie dans la région, qui s'appelle Excalibur, qui se renseigne énormément sur tout ce qui est, qui se forme aussi sur aussi bien l'art de l'escrime au Moyen-Âge, comment travailler un apothicaire, que sur, par ailleurs, le monde de l'imaginaire, le monde du jeu vidéo, et qui va proposer des spectacles et des animations. Et puis des interventions aussi d'auteurs et des interventions de spécialistes sur des domaines. Par exemple, à l'époque, on a une intervention sur les vampires, par quelqu'un de passionné sur les vampires, et qui a fait une petite conférence, ça se passe à Aragon, sur les vampires. Donc ça, voilà, c'est des dimensions, quelque part, qu'on a retrouvées chaque fois dans chaque salon, mais en le développant, ce qui fait qu'à un moment donné, le nombre d'auteurs augmentant, l'espace Aragon devenait un peu petit pour accueillir tout le monde, et surtout pour qu'on puisse donner des bonnes conditions. Et c'est là où on a été accueillis par la Marelle, et qu'on est également passé sur un rythme, on va dire, tous les deux ans, parce que c'était quand même une grosse organisation de se retrouver tous les ans. En fait, quand on termine un salon, ça veut dire que si on est en rythme annuel, déjà dès juillet, ça y est, on commence à devoir contacter toutes les maisons d'édition, les auteurs, penser aux animations, l'organisation.
Ça prend du temps. Ouais.
Ah oui, c'est sans fin. Et puis, il y avait un autre aspect, alors là, plus pratique, qui est il y a des grands salons qui sont sur des rythmes également tous les deux ans, et ça nous permettait un peu d'alterner justement avec des grands salons qui auraient pu être concurrents finalement.
Oui.
Parce que au final, vous avez combien d'auteurs ou d'autrices présentes sur place ?
Alors, sur le nombre d'auteurs, on est assez stable à peu près, entre une cinquantaine d'auteurs. Alors, ça varie avec une part d'auteurs amenés par les maisons d'édition. Et puis justement, ce que j'évoquais, c'est-à-dire que ça dépendra un peu des années, de combien les maisons d'édition présentent, comment les maisons d'édition vont répondre. Puis on a d'autres créateurs également qui peuvent venir en complément. Mais la priorité reste les auteurs. Donc des auteurs qui sont auto-édités à ce moment-là.
Et c'était une volonté un peu de ne pas faire, parce qu'au final c'est un salon du livre, mais qui n'est pas que le livre, d'être vraiment dans tout cet univers global de la fantasy fantastique, où donc il y a beaucoup, c'est un peu un cliché, mais il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux de rôle, beaucoup de jeux de société, il y a beaucoup de tout ce qui concerne Excalibur, les combats d'épée et tout, c'est tout un univers plus que juste lire. Donc c'était une volonté d'inclure tout cet univers dans ce week-end.
Oui, tout à fait, parce que c'est tout à fait raison. On a même eu lors d'un des salons, on a eu un débat, une table ronde animée sur le thème l'influence du jeu de rôle et des jeux de rôle dans la création littéraire des auteurs d'imaginaire, par exemple. Donc il y a vraiment des passerelles entre ces univers. Le but, justement, c'était, des fois, on a des gens qui votent complètement d'un côté, pas forcément de l'autre. Et finalement, ça permet d'amener aussi au livre des gens qui aiment bien jouer, qui jouent des fois des jeux de plateau, d'imagination, il peut y en avoir plein de sortes différentes. Et puis d'aller vers le livre, ou à l'inverse, de donner aussi sur le salon une dimension assez ludique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parents qui viennent avec des enfants, il y a des plateaux pour découvrir des jeux. Ils peuvent se poser un peu, peuvent jouer avec les enfants. Et puis il y a des animations qui aident à découvrir les jeux. Et ça permet ensuite de reprendre le fil du salon des auteurs. Donc on a vraiment effectivement cette dimension, on va dire, de divertissement, de plaisir. On n'est pas strictement dans le salon purement littéraire, mais c'est un univers, de l'imaginaire.
Ouais. Et c'est un salon qui est ouvert à tout le monde, tous les âges ?
Oui. Alors on essaye vraiment, et globalement on y a assez bien réussi, à avoir des auteurs qui font des livres pour du très très jeune public. Des fois c'est un livre, une dizaine de pages avec des dessins. Et puis l'autre dimension importante du public, alors là un peu plus âgé que le très jeune, c'est à travers en fait le parrain du salon, où depuis le début on a un partenariat avec les médiathèques et les centres de documentation des collèges. Donc les auteurs viennent en général en courant de semaine parler aux collégiens et leur expliquer la littérature, leur faire découvrir le monde de la littérature imaginaire. Et donc ensuite, on les a au salon. Donc ça, c'est une action qu'on aime bien, parce qu'elle nous permet de faire découvrir au jeune public. Et quelque part, de la bonne littérature de jeunesse, à la limite, peut être presque lue à tout âge, d'ailleurs. Là-dessus,
moi, je le dis de manière un peu biaisée, parce que je ne lis que ça. Mais moi, personnellement, c'est des mondes un peu fantastique qui me permettait de m'échapper le temps d'un livre, donc je trouvais ça plus agréable que de lire les littératures classiques qu'on lit au collège, lycée. Enfin, ça changeait, quoi. Donc je pense qu'au niveau jeunesse, c'est aussi intéressant d'avoir des salons comme le vôtre.
Oui, ça effectivement, la dimension d'évasion qu'il y a dans l'imaginaire C'est dire ce qui est important dans le livre. On n'est jamais seul avec un livre. Hein. Ça, c'est comme une grande formule, mais qui est toujours vrai. Après, c'est une littérature dont il faut savoir prendre tous les plaisirs de la littérature. Et le plaisir de la littérature de l'imaginaire aussi de nous faire réfléchir. Bien souvent. Alors bon, on parlait avant de science-fiction, c'est vrai que maintenant on parlerait un peu plus d'anticipation. Mais les auteurs d'anticipation et qui aujourd'hui, à travers le genre de la dystopie, et bon, on peut le regretter ou pas, hélas, très fréquent parce que c'est aussi le reflet d'une certaine inquiétude. Mais c'est aussi, d'abord, c'est pas récent, hein, ça existait avant les dystopies. Et puis ça nous amène aussi à nous poser des questions. Voilà, sur la société, sur les autres, sur la relation. Quelle utilisation veut-on faire du progrès ? Il y avait une grande autrice de science-fiction, Ursula Le Guin, qui a énormément, qui avait des connaissances en ethnologie et qui a apporté cette dimension du regard de l'autre, du regard de la différence et des sociétés dans toute son œuvre finalement. Il y en a d'autres, ça va être sur l'aspect scientifique. C'est vrai que la fantaisie, on pourrait se dire, elle est plus là pour le coup dans le pur imaginaire. Malgré tout, Tolkien, qui est quand même une référence dans l'univers de la fantasy, est quelqu'un qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, entre autres en raison du traumatisme de la Première Guerre mondiale, qui a vécu et où il a connu la mort de pas mal de ses amis. C'est suite à ça qu'il a écrit finalement Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a malgré tout voilà, les thématiques de l'époque. Après, on peut les lire, on peut en être conscient, on peut aussi se dire, moi je préfère m'en abstraire, est-ce que je veux avant tout, voilà, c'est prendre un livre qui va me faire voyager, me distraire, et puis me faire découvrir d'autres cultures, d'autres contrées, des choses même qui n'existent pas, voilà.
Et là, vous parlez donc de différents auteurs, est-ce que vous lisiez ce genre avant de commencer ce festival ? Vous lisiez de la fantasy ou du fantastique ?
Ouais, alors moi j'ai lu... il y a très très longtemps maintenant, voilà, ce que j'ai découvert totalement par hasard au collège, hein, c'était un cadeau d'anniversaire, un copain qui m'avait offert un livre de Lovecraft, d'H.P. Lovecraft, l'affaire Charles Dexter Ward, voilà. Et alors ça avait été un véritable choc de découvrir l'univers de Lovecraft. J'avais entendu un petit peu parler du fantastique à l'époque, mais pas tant que ça. Et progressivement, enfin voilà, je suis entré via Lovecraft, donc et puis progressivement, avec les amis, forcément, c'était une grande époque de l'arrivée justement du jeu de rôle également en France. Donc les donjons et dragons qui pouvaient arriver et les différents jeux de rôle qui ont été dérivés. Et puis, ne serait-ce que Lovecraft lui-même, il avait écrit tout un catalogue sur la littérature de l'imaginaire, qui est presque une liste de recommandations sur laquelle on peut se baser pour aller chercher des auteurs, en fait. Hein. Donc oui, ça fait très longtemps. Et la cinquième à peu près. C'était très très impressionnant parce que ça montre bien le pouvoir de l'imagination. Moi, je me rappelle avoir lu par une nuit de tempête dans ma chambre une des nouvelles les plus horrifiques de Lovecraft. À un moment donné, il y avait une tempête dehors. J'ai entendu comme si un bruit, si mon volet avait été arraché à l'extérieur. Et là, je suis allé voir vraiment en soulevant le volet très délicatement. J'étais quasiment persuadé que j'allais soulever et que j'allais me trouver une année avec une créature de Lovecraft. Ouais. Hein. Donc, et ça, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Donc c'est vrai que... ça a une force, quand c'est bien écrit, exceptionnelle. Même si par ailleurs, aujourd'hui, maintenant je suis conscient qu'en ce qui concerne l'auteur Lovecraft, il peut y avoir des choses pas toujours intéressantes dans le personnage qu'il a été. Mais il a créé un monde, il a créé un talent. Et après, voilà, des grands auteurs tels que Moorcock, typiquement, pu découvrir à l'époque avec Elric... Ça fait partie de, bien sûr, Tolkien, effectivement, qui a une référence presque absolue pour beaucoup de gens. Mais ils sont loin d'être les seuls, effectivement, oui.
Et vous parlez de jeux de rôle. Est-ce qu'il y aura des stands dédiés pour les jeux de rôle ou pas dans le salon ?
Alors, on a un éditeur notamment de jeux de rôle qui a un univers vraiment original. Alors, Odonada, j'espère que je ne vais pas massacrer son nom. Typiquement, qui est sur l'Amérique de la découverte post-colombienne, on va dire. Et avec, du coup, des environnements très, très dépaysants. Parce que ça, on se retrouve dans une situation où on peut aussi bien voir d'abord des cultures qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc, pour avoir vu leurs livres au précédent salon, il y a vraiment de belles illustrations. Enfin, évidemment, ce sont de beaux objets. Et puis, qui sont intéressants aussi, parce que c'est découvrir cet univers, voilà, des cultures indiennes après le choc, finalement, de l'arrivée des colons. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prévu, effectivement, oui.
Du coup, vous avez aussi bien de l'initiation au jeu de rôle pour, ou du jeu de rôle tout court pour les gens qui ne savent pas jouer ou qui savent jouer. Et vous avez donc d'autres jeux de société sur le thème fantasy, fantastique, le monde de l'imaginaire. Vous en avez d'autres aussi?
Oui, alors là, je ne sais pas exactement la section qui va être faite par le,
sans le détail.
Le CJSD, voilà. Après, en général, on essaye d'être, d'être en lien avec le thème. Voilà, il y a un thème pour le salon. Cette année, le thème, c'est le voyage dans le temps. Donc, ils vont peut-être nous sortir effectivement des jeux plus spécialement orientés sur le voyage dans le temps. C'est vrai que chaque édition, on va dire, le thème, comment dire, le salon n'est pas exclusif. Hein, c'est plus pour donner une coloration aux différents événements qui peuvent avoir lieu dans le salon. Après, ça ne veut pas du tout dire que les auteurs qui viennent oui. ne vont écrire que des livres sur le voyage dans le temps, bien sûr.
Comment vous choisissez le thème?
Alors ça, c'est un travail un peu collectif. Hein, voilà. C'est effectivement les suggestions. On essaye de varier quand même entre des thèmes qui vont plus être anticipation science-fiction, thèmes plus du monde de la fantasy, des thèmes plus du fantastique finalement.
Par exemple, l'année dernière, c'était quoi comme thème?
Il y a 2 ans, du coup.
Il y a 2 ans, excusez-moi.
Il y a 2 ans, lui, c'était complètement autour de ce qu'on appelle la dystopie, qui est le survivor, les environnements de le survival, on va dire. Donc là, si on reprend dans le thème, il y a effectivement tout ce qui est post-apocalyptique, voilà. Si je le résumais, voilà, je trouvais le...
C'était bien résumé.
Le post-apo, voilà. Le post-apo, comme disent les initiés, ouais.
Et donc là, du coup, aussi, donc, si je récapitule et que je comprends bien, les événements qui sont sur le salon, ils tournent autour de ce thème-là.
Bah voilà, l'idée, c'est que après, c'est pas toujours
autant que possible,
on essaie que ça tourne autour de ce style d'événement. Typiquement, les animations que peut organiser la troupe Excalibur vont souvent s'en inspirer. Et typiquement, la dernière fois, bon, ils avaient intégré un jeu vidéo. connu mais dont le nom là mais je sais pas à l'instant, mais donc ils avaient des scénettes qui reprenaient complètement les codes et l'esthétique d'un jeu vidéo. Dans une session précédente, ça avait été plus inspiré de l'aspect participatif du jeu de rôle, et donc les spectateurs pouvaient voter quand il y avait des scènes et dire bah voilà, que va faire le groupe d'aventuriers, hein, est-ce qu'ils vont dormir sans un gardien, est-ce qu'ils vont quand même mettre quelqu'un pour surveiller que personne n'approche.
C'est interactif.
Ça dépend des fois, mais là c'est vraiment paraissait leur inspiration, et donc ils travaillent en fonction de l'organisation du salon, du temps, des bénévoles qui sont disponibles chez eux.
Et
c'est toujours la surprise.
On a vu aussi sur le site qu'il y aura des illustrateurs et illustratrices et créateurs aussi, créatrices.
Oui, tout à fait. Oui, là c'est... chaque année on essaye d'avoir une belle affiche illustrée avec un illustrateur. Donc on ne recourt pas de l'IA générative.
Ça c'est trop bien.
Voilà. Nous on est un peu contre l'IA aussi. Donc,
donc ce sont des créateurs humains. Oui, le but c'est malgré tout de garder prioritaire la dimension livre. Donc on a volontairement un petit nombre d'autres créateurs, mais qui sont associés malgré tout au monde de l'imaginaire, effectivement. Que ce soit d'illustration, que ce soit des objets. Une année, on avait par exemple un créateur de très beaux articles en cuir qui peuvent intervenir dans du cosplay, par exemple, pendant des déguisements.
Oui, il me semble qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec un peu des éléments de cosplay ou se balader à votre salon. J'en avais vu pas mal il y a 2 ans.
Oui, on encourage. Après, c'est pas quelque chose d'obligatoire, parce qu'on voudrait pas que des gens se sentent rebutés. Des fois, surtout des fois, les jeunes n'ont pas toujours envie de se déguiser. Donc c'est libre.
Venez comme vous êtes.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est bienvenu si effectivement, des visiteurs veulent venir costumer. Ils sont tout à fait les bienvenus.
N'hésitez pas.
Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu les temps forts qu'il y aura dans ce salon-là?
Alors, le premier temps fort, déjà, c'est avec le lancement du salon et on va dire un peu le pot d'accueil avec les élus, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour le salon. On a eu toujours un soutien des communes depuis le début. Hein. On a commencé à Villarbonneau, maintenant on est à Crolles, mais on a les municipalités, le département, la région qui nous soutiennent. Et après, on essaye aussi Et ça, c'est quelque chose qui se développe, d'associer des organismes ou des associations locaux. Par exemple, le Centre Musical Accor, qui, chaque samedi matin, maintenant depuis plusieurs salons, fait un concert en choisissant des thèmes qui sont musicaux en lien avec le salon. D'autres associations, on peut avoir, ça va être le Twirling Batoon, qui a rejoint récemment, mais l'année précédente édition, on avait le Pole Dance. Et où là, c'est pareil, il faut leur demander un peu, effectivement, dans leur création, de trouver des thématiques. Alors ça peut être des thématiques, ça peut être le costume, ça peut être la musique, en lien avec le salon. Donc qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, on ne sait pas. Il y a également des contes, une conteuse qui vient et qui propose des contes, où là on a une interaction avec le public. Donc elle a un arbre à mots et puis elle va prendre des idées dans son arbre à mots, le public est là, ça plaît beaucoup, notamment effectivement le jeune public est très très attiré par ça, mais bon, c'est pareil, il n'y a pas d'âge pour participer, pour construire un récit. Donc ça, et puis de manière assez continue, Excalibur qui va alors soit faire des animations, mais ils font aussi ils apprennent par exemple la dernière fois c'était les cours d'escrime un peu médiéval pour apprendre à se servir des armes de l'époque. Ça va être différentes techniques également. Donc ça vient rythmer le salon. Et c'est le but. On a dans le déroulé du salon, on essaye d'avoir un parcours où on passe devant tous les auteurs. Et puis des espaces plus scéniques. Voilà. Ont lieu des animations.
Merci. Du coup, vous commencez par un concert, si je comprends bien.
Oui,
vous commencez le samedi matin.
Donc le samedi matin, voilà. Samedi matin, il y a un concert, effectivement, de musique sélectionnée sur le thème du salon, justement. Là, c'est vraiment un domaine où le thème du salon est pris en compte. Et dans le programme musical, ça va être la découverte, là aussi.
je le redis pour les gens intéressés. Si vous voulez venir écouter le concert, ce sera le samedi matin.
Oui, tout à fait.
Juste un petit mot sur l'escape game qui sera organisé dans le salon. C'est quoi le thème de cet escape game ?
Alors l'escape game, ça c'est quelque chose qu'on avait essayé au moins au précédent salon. C'est un créateur qui propose c'est assez amusant. C'est des petits escape games sur un mini plateau. Donc l'année dernière, on l'avait organisé dans une petite salle près de l'entrée du salon et où on peut suivre un parcours avec des petites énigmes à résoudre. C'est très original. Sur une petite maquette en miniature, on a les choix, les énigmes à résoudre. Donc l'année dernière, il y avait un qui devait se passer dans l'environnement londonien et puis... Sherlock Holmes et tout ça. Et puis l'autre, je ne sais plus bien. Mais c'est un format comme ça, effectivement.
Trop chouette.
Moi, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour nous parler de cet événement ?
Alors, se dire, c'est que là, maintenant, effectivement, le salon, l'élément important, c'est que les visiteurs aient vraiment le temps d'échanger avec les auteurs. C'est pour ça qu'encore une fois, on n'essaie pas de remplir le plus possible la marelle, parce que c'est important que les auteurs puissent expliquer, prendre le temps de faire découvrir leur œuvre, donner entre guillemets leur petit pitch, leur lecteur potentiel. On est très attaché aux dédicaces sur place dans le salon. Donc c'est pour ça que chaque auteur a un petit espace pour son stand, il a suffisamment de place. Et puis on a une buvette qu'on organise sur place avec l'équipe de bénévoles en permanence, donc avec de la restauration rapide. Donc ça permet d'arriver un peu à tout moment dans le salon. Avec aussi bien des gourmandises salées que sucrées, des gourmandises, des choix pour les végétariens également, qu'ils ne soient pas des choix par défaut. Voilà. Donc c'est la dimension, on va dire, conviviale du salon est importante aussi.
Ça permet aussi de rester pour tout le salon. Comme ça, il n'y a pas besoin de sortir pour se restaurer ou quoi.
Oui, voilà, tout à fait. Alors...
En plus, pour les gens qui connaissent un peu l'espace, si vous voulez venir avec vos livres, parce que s'il fait beau, on vous souhaite qu'il fasse beau. Si vous voulez venir avec vos livres, il y a quand même des espaces sympas pour lire sur place.
Oui, Alors, c'est vrai que si on a la chance d'avoir, bon, après, voilà, on fait avec la météo, on a de l'espace à l'intérieur. On a eu des éditions où il faisait vraiment une belle météo. Et dans ce cas-là, la marelle, c'est très agréable. Il y a des tables à l'extérieur. On peut prendre son repas à la buvette, s'installer dehors. Et puis, éventuellement, si on a pris les livres, découvrir déjà un peu ce qu'on a lu, oui, sur place.
Moi, j'ai une question par rapport à, du coup, vu que vous êtes là depuis le début, est-ce que vous êtes fière de l'évolution de ce salon ? Et de vos éditions, où ça va actuellement.
Alors, ouais, c'est vrai que on est vraiment content. Enfin, c'est un gros investissement de la part des bénévoles. Mais ce que je veux dire, c'est que après le salon, on a tous un sentiment dans l'équipe de joie d'avoir donné vraiment un week-end où plaisir où les auteurs ont pu s'exprimer, où les gens sont venus, voilà, ils ont oublié éventuellement des fois un peu, prennent un peu de distance avec les soucis du quotidien. Quand ils sont repartis avec des livres, ben, c'est encore mieux. Puis des fois, c'est des gens qui viennent à la lecture. Donc oui, on est content de voir l'évolution qu'on a pu avoir. Maintenant, on est à peu près, c'est de compter un peu des visiteurs, 2400, 2500 visiteurs sur les dernières éditions. Donc
c'est beaucoup.
Un bon nombre de visiteurs.
Ça a augmenté.
Voilà, et c'est pour ça qu'on veut en même temps que ça reste d'une taille qui reste humaine. On ne veut pas volontairement que ça devienne un immense événement. On préfère qu'il y ait à la limite d'autres salons qui se montent à proximité et qui soient en résonance sur le thème de soit du fantastique, soit du thème de la lecture. Tant mieux si Grèce Imaginaire aussi apporte sa petite pierre, voilà, cet édifice.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Pour ce petit mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, on vous rappelle juste les dates du salon. Donc ce sera le 28 et le 29 mars à la Marelle de Crolles. Et donc passez une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté l'apérophonie.
Bonne soirée.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.